Les parts actualité. Bonjour, ici Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à cette deuxième saison des Par Actualités que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer cette année. Ne vous en faites pas, Clotilde Say demeure à Canal M de Vues et Voix. Vous la retrouverez dans quelques émissions hebdomadaires, dont des livres plein les oreilles. En manchette aujourd'hui, 11 septembre 2017, le Festival Western de Saint-Tite, une interdiction qui dérange. Un aidant naturel de 25 ans privé d'un crédit d'impôt par Revenu Canada. Aussi, l'Association régionale des personnes handicapées visuelles de Jonquière fête ses 75 ans. S'unir pour mieux desservir les autistes. Déficience intellectuelle, un modèle néo-brunswickois à imiter. En France, l'œil bionique Argus 2 permet de recouvrer une vision pixelisée. Et deux entrevues, une avec Mathieu Franqueur, coordonnateur du mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, et une autre avec David Demers, nouveau gestionnaire principal d'INCA Québec. Festival Western de Saint-Tite, une interdiction qui dérange. C'est sur le site de Radio-Canada. La ville de Saint-Tite a interdit la location de quadriporteurs cette année dans le cadre du Festival Western. Un incident impliquant des jeunes ayant utilisé de façon abusive des quadriporteurs de location serait en cause. Le propriétaire de l'entreprise Coup de pouce Mobilité, Dominique Lavergne, s'indigne de cette décision. Dans une lettre qui lui est adressée, on peut lire que la location de triporteurs et de quadriporteurs est prohibée. Dominique Lavergne affirme avoir dû refuser la location de quadriporteurs à plusieurs dizaines de clients par jour depuis le début des festivités. Il estime que la ville pénalise ainsi plusieurs aînés qui auraient voulu profiter du festival. C'est très positif pour certaines personnes, ces machines-là. Ils sortent de l'isolement. L'entreprise de location espère que la politique sera revue l'an prochain. Elle souligne avoir reçu de nombreuses plaintes de clients en colère de ce changement de réglementation. La présidente du RAPLIC, un organisme de défense des droits des personnes avec un handicap, abonde dans ce sens. C'est inacceptable. Ça limite l'accès aux personnes à mobilité réduite, estime la présidente Linda Gauthier. Madame Gauthier souligne que de plus en plus de personnes seront à mobilité réduite avec le vieillissement de la population et qu'il faut tenir compte de cette nouvelle réalité. Elle croit que la ville envoie le message que les personnes avec des limitations physiques ne sont pas les bienvenues. Il n'avait pas été possible de rejoindre la ville de Saint-Tite au moment d'écrire ces lignes. L'organisation du festival souligne pour sa part que les quadriporteurs créaient des défis dans des contextes de foule dense. Ça posait des défis pour la sécurité de tout le monde, mais c'est surtout une réglementation de la ville, indique le directeur général de l'événement, Pascal Lafrenière. Après 4 jours de festivités, les organisateurs du Festival Western de Saint-Tite évoquent déjà une possible année record. Si la météo continue d'être clémente, le festival pourrait battre son record de 720 000 visiteurs. Un aidant naturel de 25 ans privé d'un crédit d'impôt par Revenu Canada, c'est un texte d'Élisabeth Fleury dans la presse.ca. La mère d'Olivier Bouchard, Joanne Paradis, dénonce cette décision qui ne tient pas debout, selon elle. Pour l'année 2014, raconte Mme Paradis, son fils avait obtenu de l'Agence fédérale un crédit d'impôt de 4 530 $ pour aidant naturel, non sans difficulté. Ça avait été compliqué. Il avait fallu travailler fort, mais ça avait finalement été accepté, relate-t-elle. Pour l'année d'imposition 2015, Olivier Bouchard s'est vu retirer le droit d'obtenir un crédit fédéral de 6 701 $ sous prétexte que le revenu net de sa grand-mère, un maigre 22 558 $, avait excédé les 20 607 $ réglementaires. Au-delà de ce montant, aucun crédit d'impôt pour aidant naturel ne peut être demandé, explique dans un courriel une porte-parole de Revenu Canada, Julie Pronovost. On n'avait jamais entendu parler de cette règle. Mais qu'est-ce que le revenu de la personne à charge a à voir avec le crédit d'impôt qu'on donne aux aidants naturels? et 22 558 $ on s'entend pour dire que ce n'est pas une fortune et que ma mère, qui était sur la liste d'attente du CLSC, n'aurait jamais pu se payer de l'aide à domicile avec ça, dénonce Joanne Paradis, qui a elle-même pris un congé de 6 mois pour s'occuper de sa mère. Madame Paradis souligne que la présence d'Olivier Bouchard chez sa grand-mère a permis à celle-ci de retarder son entrée en centre d'hébergement où ça coûte pas mal plus cher. Avec le crédit d'impôt pour aidant naturel, mon fils avait droit au final à un montant de 600 $ ou 800 $. Ce n'est pas énorme pour permettre à une personne âgée et malade de vivre plus longtemps à la maison, ajoute-t-elle. Selon Mme Paradis, c'est un bien drôle de message que le gouvernement fédéral envoie aux aidants naturels. Ce qu'on constate, c'est que c'est très difficile d'obtenir ces crédits-là. Il faut se battre pour les avoir et en bout de ligne, il n'y a pas grand monde qui a droit, s'indigne-t-elle. Je trouve qu'on n'est pas reconnaissant. On a un jeune homme de 25 ans qui prenait soin de sa grand-mère, qui faisait les repas, l'épicerie, le ménage, qui s'occupait du gazon et tout. C'est admirable. Et il me semble qu'on devrait valoriser ça, insiste Mme Paradis, qui a voulu dénoncer publiquement la situation vécue par son fils pour l'aider à mon tour et pour peut-être en aider d'autres. Olivier Bouchard n'a pas encore remboursé le montant de 862,32 $ que lui réclame Revenu Canada, qui lui avait accordé le fameux crédit d'impôt avant de réexaminer son dossier et de le lui retirer. Comme il conteste la décision de l'Agence fédérale, c'est maintenant à la Cour canadienne de l'impôt qu'il doit s'adresser. Mais on est épuisé par toutes ces démarches, laisse tomber Joanne Paradis. Dans son courriel au Soleil, la porte-parole de Revenu Canada précise que le dernier budget fédéral propose des changements au crédit pour aidants naturels à compter de l'année d'imposition 2017. Première entrevue en cette journée du lundi 11 septembre avec Mathieu Francoeur, coordonnateur du Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, merci. Rappelez-nous, Mathieu, ce qu'est le mouvement PHAS, P-H-A-S.
Oui, mouvement PHAS existe depuis une dizaine d'années. C'est comme une coalition des différents groupes communautaires, des personnes en situation de handicap et des proches à Montréal et un petit peu partout au Québec. Mm-hmm. Et la mission principale, c'est de faire de la mobilisation, l'éducation populaire, de la visibilité pour avoir un meilleur accès aux services de santé, services sociaux au Québec. Donc, c'est notre majeur, mais on touche aussi d'autres secteurs. On appuie d'autres groupes, que ce soit en transport, en habitation ou autre. Mais vraiment, c'est pour l'accès aux services en santé et services sociaux. Et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus.
Oui. Alors, justement, parlant de beaucoup de travail, l'automne s'annonce très occupé pour vous, notamment avec une journée de mobilisation du mouvement communautaire. Quand cette journée aura lieu exactement et en quoi va-t-elle consister?
Bien, ça fait partie de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », une campagne large de l'ensemble des secteurs du milieu communautaire au Québec qui demande d'avoir une meilleure reconnaissance, meilleur financement, meilleure autonomie. C'est les demandes traditionnelles du mouvement communautaire au Québec. Donc, cette campagne-là a été enclenchée depuis un an. Il y a une grosse mobilisation le 27 septembre, c'est à Québec. C'est une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale. On vise 5 000 personnes de l'ensemble des régions. Mmh. Et le milieu des personnes handicapées va être mobilisé aussi là-dedans. Et c'est pour vraiment demander un réinvestissement important donc dans le milieu communautaire. On sait que le milieu communautaire est de plus en plus appelé à parer aux coupures que dans le réseau public, dans le secteur public, donc fait de plus en plus de travail. Il y a de moins en moins de moyens, pas d'indexation. Bon, c'est toujours un peu les mêmes choses depuis des années. Et là, vu que c'est une année électorale, évidemment, et que les partis politiques doivent s'engager à faire des investissements, avoir des promesses. Donc, on demande à ce qu'il y ait des investissements du gouvernement actuel et aussi des partis politiques pour la prochaine élection.
Et une chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est une première pour vous?
Pour le milieu communautaire, à ma connaissance, oui. En plus, c'est une campagne unitaire, donc tous les secteurs communautaires ensemble, ça fait des années que c'est pas arrivé, que tout le monde allait dans la même direction. Donc ça, c'est déjà une belle réalisation. Et évidemment, on invite la population de Québec à venir à joindre à nous le 27 septembre, ça va être sur l'heure du midi. Et ça, c'est une première étape, parce qu'il y a aussi...
Je voulais juste vous arrêter, je me demandais, est-ce que les inscriptions vont bon train? Est-ce que vous avez pu vérifier?
Oui, parce qu'on organise entre les autobus de Montréal.
Oui.
Oui, les inscriptions vont bon train. On sait que pour entourer l'Assemblée nationale, ça prend 1500 personnes. Mais on vise 5000, donc on pourra faire peut-être le tour deux, trois fois de l'Assemblée nationale.
Oui, oui, ça serait bien. Ça serait encore plus frappant. Pour s'inscrire, donc, il faut aller sur une page Facebook FRACA Montréal.
Oui, FRACA, c'est le nom de la coalition Montréal qui organise ça. Donc, sur Facebook, on peut s'inscrire. N'importe qui peut s'inscrire, qui veut nous appuyer. Pas de problème.
Bon, d'accord. Alors là, vous aviez déjà commencé à parler de la campagne de mobilisation qui se tient en deux temps, d'octobre à décembre et de mars à juin?
Oui, ça, c'est celle du mouvement Phase, donc du milieu des personnes handicapées et de leurs proches à Montréal et au Québec.
Mm-hmm.
On veut faire un peu dans le même cadre, c'est-à-dire que c'est une année électorale, tout le monde veut se faire entendre, tout le monde veut dénoncer les situations de coupure, de compression, de manque de services. Donc, notre milieu, on s'organise pour la prochaine année. On veut faire une action par mois d'ici au printemps prochain dans différents quartiers de Montréal ou dans différentes régions du Québec. Et là, on couvre large, c'est-à-dire c'est les groupes et les personnes en situation de déficience physique, déficience intellectuelle et autiste. C'est un peu ça la base du mouvement en face, c'est de regrouper un peu tout le monde. Et on va faire un premier rassemblement, on n'a pas encore la date précise malheureusement, à la fin octobre pour lancer cette campagne de mobilisation du mouvement en face. Et ensuite, en novembre, en décembre, jusqu'à un grand rassemblement dans le cadre de la Semaine québécoise en juin prochain.
Alors, ce ne sont pas les activités qui manquent. Vous avez beaucoup de pain sur la planche.
Exactement.
Et puis, vous parlez de que chacune des sections d'octobre à décembre et de mars à juin va culminer avec un événement d'envergure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Bien, je peux vous dire que en décembre, pour la Journée internationale des personnes handicapées, qui va être la fin de l'automne,
mm-hmm.
Nous, au Mouvement Affaires, on travaille depuis à peu près un an sur un documentaire qui est sur l'historique du mouvement de défense des droits des personnes handicapées et de leurs proches. Et on va lancer le documentaire au mois de décembre. On va faire un gros lancement. On va faire quelques événements aussi en région. Donc ça va être un moment de rassemblement. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, de s'en servir pour lutter actuellement. Et comme je vous disais, en juin, à l'autre session, ça va être un grand rassemblement pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Et avant de vous laisser, Mathieu, j'aimerais savoir qui peut être membre du mouvement Phase?
Bien, c'est à peu près tout le monde, c'est-à-dire que c'est sur une base volontaire, c'est une coalition, donc c'est à la fois les groupes, mais ça peut être les individus, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, les parents, les proches, ou les gens qui veulent s'impliquer avec nous. On marche par comité, selon les sujets, selon les activités, donc c'est ouvert à tout le monde.
Parfait. Alors, un grand merci, Mathieu Francoeur, coordonnateur du mouvement Phase. Merci pour cette entrevue. Au plaisir de vous reparler. Et je rappelle que le 27 septembre aura lieu la grande manif Action. C'est à Québec, mais tout le monde est invité.
Oui, tout le monde est invité. C'est vraiment le communautaire, c'est un peu tout le monde.
Oui, tout à fait. Passez une belle journée. Au plaisir.
Bye.
Alors, on poursuit avec une nouvelle de ICI Radio-Canada de Jonquière. L'Association régionale des personnes handicapées visuelles célèbre son 75e anniversaire cet automne. L'organisme regroupe plus de 300 membres, selon sa porte-parole Mélissa Gagnon. La situation des non-voyants s'est améliorée au fil du temps. Cependant, les régions ont davantage de défis à surmonter que les villes. On est loin d'être à niveau lorsqu'on parle de financement des organismes en région comparativement avec ceux des grandes villes où on peut retrouver le même nombre de membres pour un financement très mince, déplore Mélissa Gagnon. Carmen Bernier, une enseignante de profession, est devenue aveugle après des complications d'une méningite. À 57 ans, elle était alors à l'aube de la retraite. La Jonquéroise s'est prise en main et s'implique bénévolement au sein de l'Association régionale des personnes handicapées visuelles. « Je ne resterai pas assise toute la journée. À l'époque, il y avait un intervenant qui est venu me montrer à tout placer mes choses dans le garde-manger, maître de l'ordre. Il venait deux fois par semaine, donc encore là, beaucoup de services », constate Carmen Bernier, non-voyante depuis 8 ans. Autre nouvelle dans la presse, .ca, s'unir pour mieux desservir les autistes, un texte de Marie-Christine Bouchard. Il n'y a maintenant plus qu'une seule porte à laquelle frapper lorsque les parents d'enfants autistes cherchent de l'aide dans le milieu communautaire. Autisme Estrie. Le nouvel organisme vient de naître de la fusion de deux organismes dont les missions étaient complémentaires, soit Austin Aid et la SATAD, Société de l'autisme et des troubles envahissants du développement de l'Estrie. Quels sont les avantages pour les utilisateurs de voir les deux organismes réunis sous un même toit, celui de la rue Rouville ou le G Autisme Aid? Les activités des deux organismes sont maintenues et bonifiées. Grâce au regroupement, il y aura une meilleure permanence et une utilisation plus judicieuse des ressources humaines. Le regroupement des activités facilitera le travail de coordination des activités, le travail d'équipe, le partage d'expertise et le soutien entre les personnes. En outre, ce regroupement permettra de faire avancer la cause de l'autisme auprès de la population, souligne Lorraine Veilleux, vice-présidente d'Autisme Estrie et elle-même maman d'un jeune adulte autiste. Moins d'argent dans les ressources et les locaux et plus d'argent sur le terrain, donc, pour venir en aide à la clientèle ciblée. Nous avons reçu la confirmation que nous pourrions conserver le financement des deux organismes malgré notre regroupement, se réjouit la directrice générale du nouvel organisme, Christine Houde. Il est difficile d'avoir un portrait exact des troubles du spectre de l'autisme en Estrie, car plusieurs ne demandent aucun service, en particulier les adultes. Avec les deux anciens organismes, je peux dire que nous desservons au moins 200 familles, mais il y a beaucoup plus de gens que ça qui en sont touchés en Estrie, soutient la directrice générale du nouvel organisme. Ce regroupement des ressources représente une deuxième bonne nouvelle en l'espace d'une semaine pour les parents de jeunes autistes. En effet, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi dernier un investissement récurrent de 1 142 300 $ dans la région pour améliorer les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et leurs familles, en plus d'un montant additionnel de 182 812 $ cette année pour donner un coup de pouce pour diminuer les listes d'attente. Ça va vite cette émission, les paractualités, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Je brise la glace aujourd'hui et j'ai en studio mon premier invité studio. Il y a eu Mathieu Franqueur au téléphone et j'ai le plaisir d'accueillir David Demers. Bonjour Monsieur Demers.
Bonjour Hélène.
L'INCA. Alors on dit l'INCA ou on dit INCA?
On dit INCA.
Alors l'INCA, David, a récemment lancé un appel de candidature pour son conseil consultatif. Et David, vous êtes le nouveau gestionnaire d'INCA Québec. Vous êtes présent pour nous en parler. Rebonjour.
Merci.
Alors, vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche de nouveaux membres.
Exactement. INCA célébrera prochainement ses 100 ans d'existence au Canada.
Prochainement, ça veut dire 2018?
En 2018, ouais. Oui. Et puis pour lancer notre nouveau centenaire, nous déploierons un programme très ambitieux pour augmenter notre notoriété, notre visibilité, ainsi que notre capacité philanthropique pour être capable d'offrir davantage de programmes et services pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle.
Et puis, donc, vous êtes à la recherche de leaders de tous les horizons. Quel type de personnes recherchez-vous plus spécifiquement?
C'est vraiment très large. On va avoir un conseil consultatif très inclusif. D'abord, on cherche des gens qui vivent peut-être elles-mêmes déjà avec une perte de vision ou qui sont en contact avec des gens proches qui vivent avec ça. Mais ça va aller jusqu'à autant des étudiants, des parents, aller jusqu'à des PDG d'entreprise. Donc, on cherche des gens dans plusieurs champs d'expertise, autant la communication, relations publiques, les finances, en droit, événementiel, philanthropie. Donc, on cherche vraiment une gamme de gens qui représentent bien la population aussi.
Mm-hmm. Et ce sont donc des gens qui ont, j'allais dire du guts, mais ça ne se dit pas à la radio, des entrepreneurs, des créateurs.
Oui, exactement. Et dans le cadre de notre nouveau centenaire, on veut voir notre organisme un peu comme un organisme en démarrage. Il y a beaucoup de place pour l'innovation, pour développer des choses très originales. Donc, je pense que c'est une opportunité très intéressante.
Oui. Et pourquoi les gens devraient postuler, selon vous? Qu'est-ce que ça leur rapporterait?
Bien, en effet, on est un organisme solide qui existe depuis 100 ans, mais aussi, comme je disais, on veut être très innovateur, on cherche des nouvelles idées. Donc, on veut du nouveau sang dans le conseil qui va vraiment nous pousser vers quelque chose de nouveau, qui va changer ce que signifie d'être aveugle au Québec et au Canada, et même au travers le monde. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup de gens en besoin, et aussi, c'est une très belle expérience.
Oui, vous êtes bien placé pour en parler.
En effet, moi-même, je vis avec une perte de vision depuis 8 ans. Mm-hmm. Oui.
Et David, quel est le rôle d'un membre du conseil consultatif d'INCA? Il faudrait dire que INCA, pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, signifie Institut national canadien pour les aveugles, ici, secteur Québec. Là.
Oui, exact.
Alors.
Et puis le rôle des membres est d'abord pour soutenir la direction générale, pour nous aider, ou, en fait, aider moi à fixer les objectifs de INCA au Québec. Et puis aussi, les membres vont tous servir un peu d'ambassadeurs dans la communauté et dans leur domaine pour nous aider à faire connaître et aussi au niveau philanthropique pour nous aider à aller chercher du financement. Surtout, on va avoir des comités, plusieurs comités pour soit pour la technologie, pour la finance, pour les différents programmes et services. Et les gens vont nous aider à trouver des bonnes idées pour vraiment améliorer la qualité de vie des gens qu'on aide.
Alors, donc, si un rôle au sein du CC, c'est trop exigeant, les personnes qui souhaitent s'impliquer peuvent se joindre à un comité.
Exactement. Ouais. Donc, ça peut être dans un comité ou en tout temps, on cherche aussi des bénévoles. Vraiment, il y a un gros manque de bénévoles pour nous aider à avoir des programmes et services.
Alors, si justement vous avez convaincu des gens, et je suis certaine que vous l'avez fait, de s'impliquer auprès de votre conseil ou auprès d'un comité, qu'est-ce que cette personne doit faire?
Alors, une personne qui est motivée à nous aider à changer ce que signifie d'être aveugle au Québec peut nous envoyer leur CV avec une courte lettre de présentation. Ça serait à Valérie Duchâtel. En fait, son courriel, c'est valérie.duchâtel@inca.ca. Mais vous pouvez également aller sur notre site web www.inca.ca pour avoir accès à l'appel d'offres également.
Jusqu'au 16 septembre.
Exactement.
Midi.
Oui. C'est ça. Idéalement, on est un peu flexible, mais oui, ouais, c'est ça.
Alors, un grand merci, David, de vous être déplacé dans les studios de Canal M de Vues et Voix. On vous souhaite de recevoir plusieurs candidatures, évidemment. Et, chers auditeurs, nous vous invitons à postuler ou à en parler autour de vous. Il faut en parler pour faire connaître INCA.
Oui.
Et je vous rappelle le courriel valérie.duchâtel@inca.ca ou sinon sur le site d'INCA. David Demers, nouveau gestionnaire principal d'INCA Québec. Merci et à la prochaine, j'espère.
Merci beaucoup.
Alors, déficience intellectuelle, un modèle néo-brunswickois à imiter, c'est dans acadienouvelle.com par le sénateur Jim Monzon et la sénatrice Nancy J. Hartling. L'établissement Open Sky de Sackville prouve que les possibilités sont illimitées pour les adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle. On y offre un programme de formation novateur qui encadre et soutient des personnes capables de vivre de façon autonome. Le programme est immensément bénéfique pour les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, d'une déficience intellectuelle ou d'une maladie mentale. Au cours d'un magnifique milieu rural, au cœur plutôt, d'un magnifique milieu rural, on y offre une approche différente de celle adoptée par les programmes traditionnels de formation. En effet, certaines personnes réagissent mieux à ce genre d'environnement. Le Canada a besoin d'un plus grand nombre de programmes comme celui-là, en particulier dans les petites communautés où il est souvent plus difficile pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille d'avoir accès à des formations axées sur les compétences et à des services de soutien qui peuvent les aider à vivre de façon autonome ou à obtenir un emploi. Open Sky est une habitation coopérative charitable établie à Sackville qui fournit un logement, le développement de compétences, une formation à l'emploi, ainsi que des liens avec la communauté à des adultes qui vivent avec des déficiences intellectuelles ou sociales, comme les troubles du spectre autistique ou une maladie mentale comme la dépression, l'anxiété et la schizophrénie. Établie dans une ferme historique, Open Sky accueille 3 participants à la fois lors de l'apprentissage de compétences, de la vie courante et d'aptitudes à l'emploi. Le personnel et les bénévoles aident chaque résident à apprendre à cuisiner, à faire le ménage, à prendre soin de soi-même et à socialiser. Il s'agit d'un cas classique d'apprentissage par la pratique où les participants se partagent les responsabilités de la ferme. En compagnie du maire adjoint de Sackville, Ron Aiken, nous avons récemment eu l'occasion de visiter la coopérative et de voir de nos propres yeux le merveilleux travail qui est accompli pour donner à des adultes les outils dont ils ont besoin pour vivre de façon autonome. dans le cadre de notre travail auprès de personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme et de personnes qui offrent un logement abordable à des parents monoparentaux, nous avons constaté à quel point aider ces personnes vulnérables à répondre à leurs besoins fondamentaux peut avoir un impact positif. La qualité de vie de tous s'améliore lorsque ces personnes jouissent de la dignité que procure la capacité de vivre de façon autonome et d'être outillées pour prendre leurs propres décisions. Les responsables du programme Open Sky traitent leurs clients avec respect et de façon inclusive tout en les aidant à devenir indépendants. Cela leur permet d'établir et d'atteindre leurs propres objectifs de vie, ainsi que de surmonter les difficultés que la vie réserve à chacun d'entre eux. En bout de ligne, l'objectif du programme est de permettre aux participants d'obtenir un emploi rémunéré et de subvenir à leurs besoins. Maintenant, la CTT achète 385 autobus. La Commission de transport de Toronto va acquérir 60 mini-autobus pour son service de transport adapté Wheel-Trans et 325 autobus réguliers au diesel. Son conseil d'administration a approuvé mardi l'achat des nouveaux véhicules qui seront livrés en 2018 et 2019. Environ 60 % des passagers prennent l'autobus au cours de leur trajet. Dans une déclaration écrite, le président de la CTT, le conseiller municipal Josh Coley, remercie le fédéral de sa contribution financière. Il note que ces nouveaux autobus permettront de remplacer des véhicules vieillissants qui coûtent cher d'entretien, sont moins fiables et polluent davantage. Et autre nouvelle, en France, l'œil bionique Argus 2 permet de recouvrer une vision pixelisée. D'après le laboratoire Second Sight, l'œil bionique Argus 2, réservé aux adultes souffrant d'une rétinite pigmentaire, a déjà été implanté chez 19 patients et 15 peuvent encore en bénéficier. Le dispositif comporte des lunettes dotées d'une caméra qui filme et envoie les images vers un boîtier fixé à la ceinture du patient. Les données sont traitées et renvoyées vers un émetteur installé dans les lunettes qui, lui, va convertir les données en messages électriques pour qu'ils soient ensuite interprétés par la prothèse rétinienne directement accolée à l'œil. Le nerf optique permet alors au patient de percevoir les nouvelles informations visuelles des formes lumineuses qu'il doit apprendre à reconnaître. L'œil bionique a entre autres été proposé à Charlotte, une Toulousaine de 32 ans. Depuis une vingtaine d'années, elle est atteinte d'une rétinite pigmentaire, une dégénérescence des cellules de la rétine qui entraîne peu à peu la perte de la vue. Charlotte explique « On m'a proposé un système de prothèse rétinienne appelé Argus 2 et j'ai refusé car malgré ce que l'on pourrait penser, je vivais très bien comme cela. » Après discussion avec ses proches, la jeune femme finit par accepter. Depuis l'opération et l'implantation de sa prothèse, Charlotte a retrouvé une vision très pixelisée en noir et blanc. Voilà, c'est tout pour cette première édition des Paractualités. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à mon équipe, Sylvie Rivard à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Hélène Denis, j'espère vous retrouver demain, 11h30. Passez une belle journée.